La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec ce matin Ruth Elkrief, éditorialiste à LCI. Bonjour Ruth.
Bonjour David.
Et Marc Lambron, notre académicien favori, vous l'écoutez le matin sur Radio Classique à 7h20 à partir de début janvier, hein, une fois qu'on aura fini cette matinale des vacances avec ses horaires particuliers. Et puis vous retrouvez évidemment Marc Lambron dans les Échos chaque week-end, entre autres. Aujourd'hui nous évoquons les disparus médiatiques ou disparus tout court. Et on va commencer avec l'affaire, ce qui devient l'affaire dans l'affaire, Depardieu.
C'est pas un disparu, voyons, c'est un trop présent.
Oui, enfin trop présent, vous allez vous en expliquer. Enfin... Mais les signataires de cette tribune parue hier dans le Figaro redoutent la cancel culture à l'américaine et supplient on ne sait qui d'ailleurs, de ne pas effacer Gérard Depardieu. Alors ils sont très nombreux, ils sont 50 à avoir signé. Nous nous sommes amusés, non pas par agisme, comme on dit aujourd'hui, à calculer la moyenne d'âge des signataires. Elle est de 70 ans, ce qui en dit sur la génération finalement qui est attachée à ce patrimoine vivant qu'est Gérard Depardieu, comme ils le disent. Et là-dessus, vous n'êtes pas d'accord, Marc et Ruth, sur le bien fondé de cette tribune.
Lorsqu'on s'en prend à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, il participe au rayonnement. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre. N'effacez pas Depardieu! Mais non, on n'efface pas Depardieu. Mais le laisser tourner, avec le risque que des jeunes femmes fragiles se retrouvent agressées, malmenées, humiliées, des jeunes habilleuses, des jeunes actrices, des jeunes maquilleuses, d'une façon ou d'une autre, oui, ne pas le laisser, oui. Parce que moi, je suis extrêmement choquée. Il est un grand artiste, c'est indéniable. Mais est-ce que pour autant il est un grand homme? Et est-ce que pour autant il pourrait bénéficier d'une totale immunité? 14 accusations, 2 plaintes, dont une qui donne lieu à une procédure, à une mise en examen. Sophie Marceau, qui le décrit comme un prédateur déjà en 2015. Anouk Grimbert, qui le décrit comme un homme, effectivement, dont le comportement quotidien sur un tournage est un désastre. Et l'omerta qui le couvre. Et aujourd'hui, il faudrait pleurer. Non, non, non.
C'était Ruth Elkrief, oui, qui a préparé son coup de gueule et son accusation, d'une certaine façon.
Non, non, je veux dire juste...
Son point de vue.
C'est pas une accusation. C'est juste qu'évidemment, il restera toujours un grand acteur. Évidemment, c'est une personnalité qui a fait rayonner la France, mais ça ne l'empêche pas d'être un homme avec ses failles et d'être aussi responsable de ses actes.
Marc Lambron.
C'est la question de la mort sociale des acteurs. Alors, en effet, aux États-Unis, Pee-wee, par exemple, vous vous souvenez de Pee-wee Herman, non? Vous vous souvenez pas?
Pee-wee, je me souviens du nom.
Qui était la Dorothée américaine, qui a été surpris dans un cinéma en train de se donner du plaisir. Il est mort. D'ailleurs, il est mort cette année. Mais Bill Cosby, 86 ans, des dizaines de plaintes. Kevin Spacey, sur des garçons. Harvey Weinstein, MeToo commence et il est en prison. Bon, et en France, on a eu des affaires quand même. Jean-Claude Brissot, par exemple, il est mort, mais il a été condamné. En revanche, Harry Habitant, accusé, apparemment, le dossier est vide.
Souvenez-vous aussi...
Richard Berry, hein, non. Donc, ça n'arrête pas.
Et l'affaire Adèle Hanel aussi, avec ce réalisateur qu'elle accusait de l'avoir harcelé, Christophe Ruggia.
Voilà.
L'enquête a commencé, le dépôt de plainte date de 2020. L'enquête est bloquée
hors cinéma de Mads Neff, Olivier Duhamel, Hulot, PPDA. Bon, alors, je vais vous dire pourquoi ce que je trouve bien dans cette lettre est pas bien et pourquoi je ne l'aurais pas signé in fine. Ce que je trouve bien, c'est quand même le rappel de la présomption d'innocence. Ce qu'a fait Macron l'autre jour, un tweet, c'est pas un tribunal, un réseau social, c'est pas un prétoire.
Mise en examen, il y a une mise en examen.
Mais présomption d'innocence jusqu'au procès. Bon, deuxièmement, il y a une chose, alors c'est un grand artiste. C'est une chose qui est assez pratiquée dans littérature depuis longtemps. C'est le contre Sainte-Beuve, c'est la disjonction entre l'œuvre et l'homme. Alors, on lit toujours Céline, on lit toujours Drieux, on lit toujours Morand, on lit toujours Aragon.
Fascistes
ou staliniens, pour leur art, comme il est dit dans le... Bon. Après, je trouve que c'est une lettre boursouflée, émotive, qui, c'est mal écrit, qui bat le rappel des copains, c'est « Salut les copains ». C'est une corporation, c'est les professionnels de la profession. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que le cinéma français, ça commence à bien faire. C'est-à-dire qu'il y a une autarcie de ces acteurs qui se croient seuls au monde, qui, à la nuit des Césars, insultent à peu près chaque année le ministre qui les finance. Ce sont des enfants gâtés. Il y a des intermittents du spectacle qui sont payés par le MEDEF et qui sont protégés. Il n'y a pas d'intermittents de la littérature, de la sculpture, de la musique.
Marc Lambron, ceux qui ont signé ce texte ne sont pas ceux qui insultent le ministre en général.
Oh bon, ils sont dans la salle et...
C'est plutôt l'establishment du cinéma. C'est plutôt les enfants gâtés du cinéma qui ont signé cette tribune et qui sont des gens dont la carrière est pour les deux tiers derrière eux.
Et qui donne l'image d'une protection d'une personnalité très forte qui, encore une fois, quand le président prend la parole là-dessus et qui dit, il fait rayonner la France et je suis contre la chasse à l'homme, enfin, ça n'est pas la question. D'abord, il fallait parler de la douleur des femmes. C'est tellement dur.
Alors, il a une façon.
Il ne s'agit pas de chasse à l'homme, il s'agit de poser des faits. Et là, il y a une forme d'omerta, de protection du milieu qui est très dérangeante.
Alors, cela dit, il a une façon particulière, en effet, de défendre la France, parce que, Depardieu, on l'a vu chez Fidel Castro. Il y a eu un certain nombre d'années.
Poutine,
qui lui donne un passeport, et on le voit chez Kim Jong-un, là, dans l'affaire. Donc, je crois que Depardieu, c'est un tératologue, c'est-à-dire quelqu'un qui est fasciné par les monstres, et c'est lui-même un monstre sacré.
Oui, enfin sacré, un monstre.
Bah, comme on dit, si.
Un monstre sacré, peut-être, mais un homme qui a ses failles, comme tous, et ce n'est pas parce qu'il est un grand artiste qu'il n'en aurait pas. Et l'abus de pouvoir, c'est le pire. L'abus de pouvoir, c'est cela qui me choque le plus. Quand on est un grand acteur, alors on peut tout se permettre ? Non.
Je soumets à votre sagacité...
C'est un butor, écoutez.
Je soumets à votre sagacité le fait que Pierre Richard, qui est signataire de la tribune, ait été déchu de sa fonction d'ambassadeur ou de porte-parole de l'association Les Papillons, qui a pour but de lutter contre les violences sexuelles sur les enfants. Et il y a des répliques, c'est-à-dire, est-ce qu'on va se mettre à mettre au pilori tous les signataires de la tribune. C'est typiquement américain, ça.
C'est le grand blond avec une signature noire.
Non, mais il ne faut pas abuser sur l'affaire Pierre-Richard, je n'ai rien à dire, mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas de clous au pilori, des signataires, en l'occurrence, qui se sont fait avoir sur... J'en ai rencontré un très attachant et que j'aime beaucoup, et qui m'a dit, j'en ai marre de ce mouvement woke, j'en ai marre, c'est pour ça que j'ai signé, je ne suis pas sûre d'être d'accord sur tout le texte. C'est ça qui s'est passé un peu. Il y a eu une forme, comme a dit Marc, d'émotivité autour de cette situation. Mais un peu de calme, un peu de raison, un peu de distance, et la carrière de Gérard Depardieu existera toujours.
Et le calme et la distance pourraient venir de propos de Sandrine Rousseau l'année dernière, Hôtel Krief.
Mais Sandrine Rousseau est une personnalité très contestée, qui a qui est très cash, avec laquelle je suis pas d'accord sur tout, loin de là, mais qui a dit quelque chose d'intéressant ? Qui dit qu'il faut pas de mort sociale pour un homme accusé, parce que sinon, il niera toujours, et on ne pourra jamais avancer. Donc, il faut une sanction, il faut regarder les faits, il faut une procédure judiciaire, et ça, c'est très important, parce qu'elle nous protège tous, et en l'occurrence, pour Gérard Depardieu, il y en a une, contrairement à d'autres affaires. Je me suis émue du traitement de Mathias Vichra à Sciences Po, donc je suis très à l'aise sur cette question, puisque justement il n'y a aucune procédure du judiciaire, ou en tout cas initiée ou par sa compagne en l'occurrence. Donc quand il y en a une, elle nous protège, elle protège la justice, protège tous les citoyens. Mais Sandrine Rousseau évoque quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire effectivement pas d'effacement, pas de mort sociale, une sanction et ensuite un reset en quelque sorte dans les relations hommes-femmes.
Un reset en français. Marc Lambron.
Pardon. Mais vous voyez ce que je veux dire, sinon on n'avancera jamais dans les relations hommes-femmes et les hommes de pouvoir auront toujours peur de reconnaître les fautes si elles signifient leur mort sociale. En revanche, personne n'est au-dessus des lois.
Bonne année, Monsieur Katnaz, bonne année, Monsieur Michra.
Ah non, mais rien à voir entre les deux affaires.
Bon.
Rien à voir. Non,
quelque chose à ajouter sur l'affaire Depardieu ?
Non.
Ben, je vous propose d'écouter du Edmond Rostand, lu par Gérard Depardieu.
Vous nous prenez par les sentiments, là.
Ah non, c'est un peu court, je le vois. Chose, en somme.
Allez, on écoute Depardieu.
On va varier le ton.
On écoute Depardieu dans Cyrano, puisque nous séparons l'œuvre de l'homme. Évidemment, l'homme est critiquable. Le texte d'Edmond Rostand, lu par Depardieu, c'est pas mal.
Mais bien sûr.
J'avance, et tout à coup me trouve...
Nez à nez.
Face à face. Oui, avec son braillard enragé qui puait.
À plein nez.
L'oignon et la vinasse. Je bondis, front baissé.
Nez au vent.
Et je passe. J'en estomac deux. J'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte.
Pif.
Oui, il crie un peu. Hein. Jacques Toja, Jean-Pierre...
Il y a l'action, c'est du cinéma.
Jacques Weber l'ont fait peut-être mieux encore.
Enfin bon, on passe à une autre... enfin, une vraie disparition, pour le coup. C'est celle de Patrick Buisson, intellectuel de droite, historien, conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en 2007. Il y allait avec un magnétophone. Il est aussi au cœur d'une affaire de sondage et de contrat passé avec l'Élysée. Donc, un personnage complexe et donc un personnage toujours intéressant. Marc Lambron, on a beaucoup parlé dans les années 60, 70 et 80 des intellectuels de gauche. Les années 2000, c'est les années des intellos de droite ?
Bon, en effet, il meurt au moment où ses idées seraient en passe de devenir majoritaires. C'est pas le... 2027, il y a tout de même des hypothèses à cet égard. Je ne le connaissais pas, vu de l'extérieur, il me semblait être une sorte de boule de ressentiment oblique. Son propre fils, d'ailleurs, avait écrit un livre qui ne brillait pas par l'amour filial. Et en effet, il y a ce côté... Watergate chez Maurras. où on va écouter les on enregistre.
C'est vrai qu'il avait été membre de l'Action française dans sa jeunesse.
Le président. Alors en effet, Action française, c'était un personnage qui illustrait par ailleurs une certaine tradition cultivée de l'extrême droite, avec des polémistes comme Léon Daudet, comme Brasillac, comme Pierre Boutan. Souvent d'ailleurs, c'était au départ des Maurassiens. Et les Maurassiens aimaient l'histoire parce que c'était l'ancien régime, et notamment avant 1789. Et il écrivait des livres qui avaient un côté oblique. Enfin, il y avait une sorte d'analyse sauvage qui n'était pas forcément convenue et dont Zemmour, à mon avis, est une sorte d'ersatz. Alors après, ce qui est curieux chez ces personnages-là, c'est l'ascendant, parce qu'il y avait un ascendant de visiteur du soir, comme on dit, chez Sarkozy, auprès de Sarkozy. Et que l'on sache, il dirigeait d'ailleurs toujours une chaîne Histoire qui fait partie du groupe TF1, si je ne me trompe. Bon. Encore une ou deux choses. Il y a une vision complotiste de l'histoire et de la politique. Donc, il dénonce les complots, en général, mais il les adore. Et ça, c'est la tradition de la cagoule, de la synarchie, agir dans l'ombre. Et voilà, donc on avait un composé de quelque chose dont peut-être le moule s'est perdu, mais ça partait du Maurrassisme, ça passe par Minute, par Valeurs Actuelles, par l'Élysée et par la télévision, où il était un commentateur avec Olivier Duhamel.
Et David Pujadas dans l'émission Politiquement Chaud sur LCI.
C'est Ruth qui va nous le dire.
Hors pair, il faut dire, alors là encore on va séparer les œuvres des hommes, mais des commentaires sur la vie politique autant par l'un que par l'autre, très affûtés, très documentés, très brillants, mais ça c'est peut-être Ruth Elkrief qui peut nous en parler.
Écoutez, moi je le connaissais, je vais lui reconnaître une grande lucidité sur un certain nombre de questions. Les frontières, l'identité, le souverainisme. Il avait prédit la victoire du non à la Constitution. Et en même temps, un homme pervers, manipulateur, misogyne, père indigne, très antipathique.
Quel requiem !
Pardon, mais voilà. On sépare en effet l'œuvre de l'homme. Et effectivement, un intellectuel d'extrême droite, maurassien, qui a même... évoquer la nostalgie d'un idéal que les Français n'auraient plus, et ça j'entends, puisque effectivement aujourd'hui on est peut-être confronté à cette question.
À 43%.
Bien sûr. Bon. Et qui pour cela en est arrivé même à admirer l'islam, considérant que c'était l'idéal qui était proposé à certaines populations. Donc vous voyez.
Par traditionnalisme.
Total traditionnaliste, anti-libéral profond.
Une sorte de chaînon manquant entre le Jean-Marie Le Pen en pré-retraite et puis Zemmour et Marine Le Pen.
Oui, alors ce qui m'a frappé, ce sont les commentaires très laudatifs ce matin de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti, d'Éric Zemmour, évidemment.
Bah, venant de la droite, c'est un peu normal.
Oui. En même temps,
Chacun a ses amis, Depardieu dans le cinéma, Buisson.
Oui, en même temps, il a dit du mal de Marine Le Pen de façon terrible en disant qu'elle était incompétente. Il l'était avec Éric Zemmour, il l'a soutenu, mais un peu du bout des lèvres parce qu'il y avait une forme de jalousie quand même entre les deux hommes, même s'ils ont été amis. Et parce que c'était un personnage très sombre. Et effectivement, les portraits qui ont été faits de lui avec beaucoup de talent par nos consoeurs journalistes Vanessa Schneider et Raphaël Baquet, ou Ariane Chemin, pardon, et puis par son propre fils, sont assez édifiants sur la vraiment la noirceur du personnage.
Alors justement, on est quand même au lendemain de sa mort.
C'est assez l'extrême droite, parce qu'il y a souvent un Brutus, ou une Brutus, tout coco et méfili.
On est quand même au lendemain de la mort d'un homme. Alors, Ruth a été aussi objective que sévère. Est-ce que Marc Lambron et le recul romanesque, l'homme de lettres que vous êtes, qui reconnaît chez Patrick Buisson un intellectuel, peut terminer cette conversation sur une note plus positive.
À son propos ?
Ben oui.
Eh ben, je reprendrai le terme de tératologie, c'est-à-dire l'étude des monstres, et c'était un spécimen assez intéressant.
Positif, ça ?
Un papillon borracien intéressant à piquer sur une planche.
Il avait vu juste sur certaines questions, voilà, c'est quand même le meilleur hommage.
Voilà. Mes chers amis, on arrive au terme de cette discussion qui, je trouve, ce matin a été piquante et peut-être plus passionnante encore qu'à l'accoutumée, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de ces sujets brûlants et piégés. J'ai trois ouvrages à vous recommander, puisque si vous avez loupé la période des cadeaux de Noël, ces trois ouvrages ont en commun d'être illustrés. Il y a Notes légères, nouvelles histoires légères de la musique classique par Christian Morin, qui fait et les textes et les dessins, parce que Christian a tous les talents, musicien, animateur de radio, homme de télé, homme de show, et c'est un livre tout à fait sympathique, et on voit la richesse des inspirations de Christian. Il y a Les Indégivrables, le grand moi de Xavier Gorce avec ses manchots qui croquent la vie politique et l'air du temps formidablement. Et puis, il y a La fin de l'histoire, la fin FAIM, signée Jules et Aitor Alfonso. C'est une histoire du monde par la gastronomie. C'est le volume 1 et c'est très documenté et c'est à la fois drôle. Et ça vous raconte comment l'espèce humaine s'est nourrie. C'est à la fois de l'anthropologie, de la sociologie. Et évidemment, il y a tout le talent de dessinateur de Jules. Voilà, je veux pas parler davantage parce que je suis en train d'exploser la pendule. On va se revoir, nous trois,
très bientôt.
En 2024, me semble-t-il. Je vous souhaite par avance une excellente année. Je vous annonce dans un instant la météo d'Héloïse Weiss, son flash, et puis ensuite, ce sera Franck Ferrand, raconte, j'en bafouille, je vous embrasse tous les deux.